Radio Raoul, la web radio des élèves du collège Raoul Blanchard. Vous les avez peut-être vus en vous promenant dans les rues d'Annecy ou tout simplement en bas de chez vous. Des casiers solidaires sont en train d'être installés un peu partout dans l'agglomération. Ilem, Siloé, bonjour.
Bonjour.
Ça ressemble à quoi ces casiers ?
Les casiers solidaires sont de grandes boîtes grises de environ 1m70, numérotées de 1 à 6.
C'est Emmaüs qui les a installés. Pour en savoir plus, on est allé rencontrer Yvan. C'est le responsable de la communauté Emmaüs à Annecy et Mestecy.
Ce sont des grosses boîtes qu'on va déposer à différents endroits, dans différentes communes, et dans lesquelles les personnes qui sont généreuses et qui ont des t-shirts, des chaussures, des vêtements en plus, vont pouvoir mettre, déposer dans ces boîtes. Et ces boîtes, nous, entre autres, Emmaüs, mais il y a également d'autres associations, qui récupèrent tout ça et qui vont les trier, les laver, les repasser et les remettre en vente pour que quelqu'un d'autre puisse les utiliser, quelqu'un qui souvent a un petit peu moins de sous.
Cela fait combien de temps qu'ils sont installés ?
Ça fait bien une quinzaine d'années, je crois, presque 15 ans que ça existe, au moins. Donc on a évidemment beaucoup d'habits aujourd'hui.
Pourquoi ont-ils été installés ?
Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, si je donne l'exemple à Emmaüs, ici où vous êtes, mesdemoiselles, il y a des gens qui viennent déposer des sacs d'habits. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie d'aller déposer les sacs d'habits ici. Et donc, en les mettant en bas de leur immeuble ou dans leur petit coin où ils habitent, ça permet pour nous d'aller récupérer plus d'habits encore et éviter aussi des personnes qui, des fois, sont âgées ou qui n'ont pas les moyens de venir, de déposer dans ces casiers.
Y a-t-il beaucoup de gens qui utilisent les casiers solidaires ?
Oui, alors les casiers solidaires, il y a énormément de gens et de plus en plus qui évitent de jeter des choses parce que peut-être que vous connaissez les marques Shein et toutes ces marques-là. Je vous parle que de celles-ci, mais je pense que vous en connaissez d'autres. Où on achète des habits pas chers qui s'abîment assez vite ou qu'on met qu'une fois. Eh bien, grâce aux casiers solidaires, on essaye de récupérer ces vêtements qui sont des fois de qualité moyenne, mais ça peut servir à d'autres qui n'ont même pas les moyens de mettre 5 euros dans un t-shirt ou un pull-over pour l'hiver. Voilà.
Est-ce que les gens en sont contents ?
Alors les gens sont très contents. En règle générale, quand on partage quelque chose, on donne. Alors on parle dans les casiers, on met aussi des choses que vous avez peut-être dans vos chambres qui sont des peluches. Et on est toujours content d'offrir et de penser que ça peut servir à quelqu'un d'autre, même si on ne connaît pas la personne, mais de se dire, tiens, lui, il va être content d'avoir un doudou pour câliner, quoi. Voilà, donc ça fait plaisir aux autres, partager, en fait, tout simplement.
Et si vous voulez trouver un casier près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site internet casiersolidaires.org.
Et est-ce que vous connaissiez Emmaüs avant de faire cette interview ?
Pas du tout. Et Yvan nous a expliqué ce qu'est cette communauté.
Donc Emmaüs, c'est une association qui a été fondée par l'abbé Pierre pendant l'hiver 1954 et quand il faisait très froid. Et en fait, ce monsieur, l'abbé Pierre, a dit simplement à un monsieur qui n'avait pas du tout la forme, on va dire, qu'il n'était pas bien dans sa tête et qu'il en avait marre de la vie, il lui a dit plutôt que de faire n'importe quoi, viens m'aider à aider. C'est-à-dire, viens m'aider à aider les autres. Et ça lui a permis d'aider d'autres personnes. Et ça a créé un groupe de personnes qu'on a appelé une communauté. Et cette communauté-là, aujourd'hui, il y en a un peu partout dans le monde. Et voilà ce que c'est que Emmaüs. C'est une association qui est également indépendante financièrement, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas d'argent de l'État. Et les communautés Emmaüs sont autonomes financièrement grâce aux dons des donateurs, entre autres, principalement des dons en matériel.
Voilà. Pour en savoir plus sur la communauté Emmaüs, rendez-vous sur le site internet emmaüs-france.org.
Sécheresse estivale, faible chute de neige, le manque de précipitations a-t-il un impact sur le niveau du lac d'Annecy ? Amine ou Deifa, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le niveau du lac a baissé ?
Pour avoir la réponse à cette question, on a contacté Charlène Cardozo.
Elle est hydrologue à Annecy et membre de Water Family, une association qui éduque et sensibilise à la préservation de l'eau, de notre santé et de l'ensemble du vivant.
D'une manière générale, non, le lac d'Annecy, le niveau du lac ne baisse pas. En fait, on a toujours la même quantité de pluie qui tombe sur notre territoire. Donc le lac, il continue à être alimenté. Par contre, ce qui change, c'est... particulièrement en été, où les sécheresses sont plus intenses. Et donc là, le niveau du lac baisse beaucoup plus vite et beaucoup plus. Alors, le lac d'Annecy, il faut savoir comment il s'alimente. Il est majoritairement alimenté par la source du Boubiose. C'est une source qui est située à 80 mètres de profondeur au niveau de la station de la Puya, qui traite l'eau pour la rendre potable et que l'on boit au final, qu'on retrouve dans tous les robinets des Anniciens. Et c'est ici même qu'en fait surgit une source, la source du Boubiose, qui en fait est alimentée par le Semnose. En fait, quand il pleut, l'eau va s'infiltrer à travers le Semnose, descendre très très bas jusqu'à un niveau souterrain, et puis elle ressurgit en fait au niveau du lac. Le lac est alimenté comme ça, mais il est aussi alimenté par des rivières. Et quand en été, bah, les pluies viennent à manquer, la source du Boubiose et les rivières, elles font quoi? Bah, elles baissent. Et donc le lac, il est moins alimenté et donc il baisse aussi. Donc il y a un lien qui est vraiment direct dès qu'il ne pleut pas pendant un certain temps. Au bout des 30 jours, un mois, deux mois sans pluie, bah, là, le niveau du lac, il baisse.
Est-ce que cette baisse, elle est problématique?
Oui, elle peut être problématique dans un premier temps pour les bateaux, essentiellement. Bah, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2018, quand il y a le niveau du lac est descendu vraiment très bas, en fait, les bateaux ne pouvaient pas partir. Ils étaient presque bloqués au bord. À terme, ça peut, c'est plus tous les milieux aquatiques qui vont souffrir aussi, notamment les roselières, les roseaux qui sont au bord de lac, qui, au bout d'un certain temps, si elles n'ont plus d'eau, peuvent mourir, tout simplement.
Est-ce que les poissons sont-ils affectés de cette baisse?
Effectivement, si les roselières meurent, les roselières, en fait, c'est vraiment des espaces refuges pour certaines espèces, notamment des poissons. Et sans ces espaces refuges, certaines espèces ne peuvent plus se reproduire. Donc, ça peut effectivement compromettre leur survie, quoi. En fait, le lac, il faut bien comprendre comment il fonctionne, hein, pour voir le problème. Quand on a construit la ville d'Annecy, on a régulé le niveau du lac artificiellement. C'est-à-dire qu'on voulait, justement, pour mettre des bateaux, que le lac il soit toujours au même niveau, 80 cm. Et depuis quelques temps, on s'est dit, à force de le laisser au même niveau, on va tuer les roselières. Donc, on va réguler en fait, le niveau du lac pour que les roselières puissent se reproduire, se régénérer. Et ça demande en fait à ce qu'on abaisse le niveau du lac, notamment en été. En été et à l'automne surtout. Plutôt favorable pour la reproduction des roselières. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis quelques années, il faut le garder. Donc quand en fait on dit le niveau du lac baisse, il faut aussi accepter que c'est normal. Alors à quel point est-ce que c'est normal? Typiquement là cet été, en 2018, c'était pas normal parce qu'on avait des gros manques de pluie, quoi. Mais par contre, il faut aussi accepter qu'on va devoir baisser de temps en temps le niveau du lac pour que les roselières puissent se reproduire.
La sécheresse continuerait comme l'été dernier. Est-ce que ce serait potentiel que le lac puisse disparaître?
C'est une bonne question. Alors non, on a le lac d'Annecy encore des beaux jours devant lui. Le lac ne sera jamais à sec, hein. Enfin en tout cas de notre vivant. Il faudrait qu'il n'y ait vraiment pas d'eau, enfin pas de pluie pendant plusieurs années pour que le lac s'assèche complètement. Pour vous dire en fait, une goutte d'eau, à partir du moment où elle arrive dans le lac, elle met quasiment 4 ans pour en ressortir. Donc en fait, il faudra attendre un certain nombre d'années pour qu'il n'y ait plus de pluie pour alimenter le lac. Et ce qui ne va pas arriver, en tout cas de notre vivant.
D'ailleurs, dans le lac d'Annecy, on s'y baigne en toute saison, même l'hiver, si si.
L'eau, elle est plus chaude que l'air.
Raphaël, Quentin, Samy... Bonjour.
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 On l'entend, vous avez pris votre courage à deux mains pour essayer cette baignade hivernale.
Oui, on a passé la matinée avec une trentaine de personnes de l'association du Ice Club.
On était à l'hôtel Beauregard, en face du lac, pour comprendre pourquoi des gens se baignaient en hiver.
Réponse avec Stéphane Johnson, c'est le président de cette association.
Alors, j'ai créé le club il y a 3 ans. C'était au moment du confinement, en fait. On avait besoin de créer une émulation pour que on puisse se retrouver un petit peu avec du monde après le confinement. Et l'idée, c'était de proposer une activité autour des bains froids. Alors c'est bénéfique pour le corps parce qu'on va provoquer une adaptation au froid qui va générer des adaptations notamment au niveau vasculaire, circulatoire. Et puis c'est aussi bénéfique pour le mental Parce que comme vous avez pu le voir, quand on commence à avancer dans l'eau froide, mais il faut une certaine détermination, une certaine motivation pour le faire. Et puis c'est aussi bénéfique pour un élément qu'on appelle le système nerveux autonome, qui va régler l'ensemble des fonctions physiologiques du corps, et qu'on va comme ça apprendre à maîtriser un petit peu plus. Voilà.
Vous baignez-vous tout le temps à la même plage ?
Alors ici au club, oui, on se baigne tout le temps à la même plage, on est tout le temps à quelques mètres de l'hôtel. L'idée, c'est de pouvoir déjà se mettre un peu au froid quand on part de la terrasse ici et qu'on va sur la plage en maillot de bain. Et c'est aussi important de revenir sans trop se sécher, voilà, pour qu'il y ait un réchauffement très progressif du corps. Si on le fait trop vite, on va au contraire avoir des tremblements, trop de tremblements.
Quelles sont les meilleures heures pour se baigner ?
Alors, il n'y en a pas. En général, l'heure qu'on choisit là, elle est pas mal. C'est un petit peu avant midi. C'est surtout pour des aspects pratiques, parce que on s'imagine que le dimanche matin ou le samedi matin, les gens ont envie de profiter un petit peu de leur sommeil le matin, un petit déjeuner en famille, et puis après on vient à l'Ice Club avant d'aller déjeuner en famille. Voilà, c'était plus réglé comme ça. Maintenant, ça se pratique à n'importe quel moment de la journée.
Combien de temps le corps humain peut tenir dans une eau inférieure à 10 degrés ?
Alors, il y a plusieurs éléments. En fait, la règle de sécurité du club, c'est la température en degrés. Ça donne le temps d'immersion maximale en minutes. Donc, quand ça fait 10 degrés, on dit pas plus de 10 minutes. Quand ça fait 5 degrés, on dit pas plus de 5 minutes. Mais ça, c'est une règle de sécurité. En réalité, le record du monde d'immersion dans une eau à 0 degré, c'est 2h30, avec des gens qui sont entraînés pour ça et qui font en sorte que la température du corps ne baisse pas. Voilà. Parce que c'est ça le danger, en fait, c'est d'arriver dans des zones d'hypothermie où la température du corps est tellement basse qu'il peut y avoir des désordres un peu physiologiques.
Et vous, alors, vous avez tenu combien de temps dans l'eau ?
Nous, on est resté 9 minutes parce qu'elle était à 9 degrés et on nous a demandé de sortir au bout de ce temps-là pour ne pas faire d'hypothermie.
Et alors, c'était froid ?
Oui, très froid. Je sentais plus mon corps à la fin.
Moi, je tremblais.
À tester, c'est agréable la sensation de chaud qui vient après, avec la serviette.
Si ça vous intéresse, si vous voulez vous baigner avec eux le dimanche matin, vous trouverez toutes les informations sur le site internet de l'Ice Club.
D'ailleurs, est-ce que vous saviez que certains poissons du lac d'Annecy naissent dans une pisciculture ? C'est ce qu'on va voir avec vous, Michel et Khalil. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Certains poissons du lac d'Annecy sont donc élevés dans des bassins artificiels, en fait.
Oui, c'est ce que nous a expliqué Yves Josserand. Il est garde de pêche et pisciculteur à l'association de pêche Annecy-Rivière.
Donc la pisciculture, ça consiste à élever des poissons pour ou la consommation directe, pour la vente dans les magasins, ou alors, ce qui nous concerne nous, c'est pour élever des poissons et pour les mettre dans le milieu naturel. C'est-à-dire, on appelle ça le repeuplement par l'alvinage. Donc ça sert à compenser un petit peu tous les poissons qui sont pris par les pêcheurs. Donc mon travail, c'est de produire ces poissons en faisant pondre des truites, des ombres chevaliers. On fait pondre les œufs et ensuite on élève les petits alevins. Je les élève, je les fais grossir, etc. Et après, je les remets dans les rivières et dans le lac d'Annecy avec l'aide d'une collègue. Et la deuxième partie de mon métier, donc, c'est garde-pêche. C'est le travail de surveillance des rivières par rapport aux pêcheurs, voir s'ils ont leur permis de pêche, s'ils respectent la réglementation de la pêche. Et aussi, c'est la préservation des milieux aquatiques par la pêche électrique, entre autres. C'est-à-dire, c'est une action qui se fait lors de travaux en rivière, principalement. Aménager des berges, protéger une berge, etc. Moi, en tant que garde-pêche, j'interviens avant avec un matériel de pêche électrique qui nous permet d'enlever les poissons de la rivière avant que les engins ou les personnes viennent travailler dans la rivière pour éviter qu'il y ait un impact sur le milieu aquatique.
Si vous êtes intéressé par l'association Annecy Rivière, vous pouvez les contacter sur annecyriviere.fr/contact.
Vous vous souvenez peut-être de l'incendie de l'hôtel de ville d'Annecy. C'était il y a 3 ans et un gros panache de fumée noire s'était élevé au-dessus de la ville. Anna, Loélie, Margot, bonjour.
Bonjour.
On va revenir avec vous sur cet événement.
Pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé, on est allé rencontrer Stéphanie Lejolu. Elle est agente au secrétariat de la mairie. Elle était présente et se souvient très bien de l'incendie.
La mairie a pris feu au troisième étage, au niveau d'une armoire électrique. C'était accidentel. Aucun dossier n'a été brûlé. Ils ont pu tous être récupérés et inondés, oui. Beaucoup de dossiers inondés qui ont pu être séchés par des ventilateurs. Ils ont été transférés auprès des archives municipales qui a pu sécher les dossiers. Ça a pris des semaines, voire des mois.
Comment cela s'est-il passé lorsque la mairie a pris feu? Y a-t-il eu des morts ou des blessés?
Alors, c'était sur l'heure de déjeuner, donc c'est un directeur général adjoint qui était présent à ce niveau-là, puisque l'armoire était proche de son bureau, a pu procéder à l'évacuation des agents présents. Et il n'y a eu, heureusement, aucun mort, aucun blessé. Tout le monde a pu être évacué rapidement, sain et sauf. Et ensuite, les pompiers sont arrivés pour commencer à éteindre l'incendie qui s'est rapidement propagé au quatrième étage et sur les combles.
Comment travaillent les employés après l'incendie?
Alors, les employés ont tous été répartis 48 heures après l'incendie sur différents sites. Donc, il y avait au total 280 employés qui ont pu, dès le lundi 17 novembre, intégrer de nouveau un nouveau poste.
Et maintenant, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il y aura un nouvel hôtel de ville?
Pour répondre à cette question, on est allé rencontrer Rachel Billon-Gonzalez. Elle supervise les travaux de la future mairie.
Le projet de l'hôtel de ville est en cours de ce qu'on appelle la conception avec l'équipe d'architectes qui nous accompagne sur ce projet. Donc la conception, ça inclut en fait tout le travail de réalisation des plans de techniques, de structures pour pouvoir effectivement accueillir l'ensemble des équipements pour le futur hôtel de ville. Donc c'est une phase qui aura duré un an à peu près. Ensuite, cette phase va permettre d'écrire un certain nombre de pièces techniques et de cahiers des charges pour les entreprises pour qu'elles puissent ensuite répondre au marché et ensuite seulement démarrer les travaux. Et donc cette période-là devrait normalement démarrer à l'automne prochain, 2023.
Allez-vous moderniser la mairie ou bien la reconstruire à l'identique?
Eh bien, j'ai envie de dire les deux, puisqu'effectivement l'enjeu du projet c'était bien sûr de retrouver, on va dire, les marqueurs de l'histoire de l'hôtel de ville, tout en rendant l'hôtel plus moderne dans cette nouvelle génération, ce qu'on appelle la mairie 2.0, intégrer tout le volet numérique sur les espaces de réunion ou d'accueil du public. On va amener effectivement des choses un peu différentes de ce qui existait avant et profiter de cette rénovation pour vraiment aussi moderniser nos installations de chauffage, nos installations de ventilation, nos installations d'éclairage pour en faire un bâtiment plus performant énergétiquement et plus contemporain dans son organisation également.
Et ça va coûter combien ces travaux?
Alors ça va coûter 30 millions d'euros. Une bonne partie sera prise en charge par l'assurance et la ville va payer le reste aussi grâce à des subventions.
Peut-être faites-vous partie de ceux qui utilisent leur vélo pour se déplacer dans l'agglomération, mais saviez-vous qu'elle compte 132 km de pistes cyclables en tout? Louis, Antoine, bonjour.
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 Vous faites partie des courageux qui pédalent pour se rendre au collège et vous vous êtes demandé si les aménagements pour les cyclistes étaient suffisants.
Le mieux placé pour nous répondre, ce sont les membres de Roule & Co. C'est l'association pour la promotion du vélo à Annecy.
Et ils en pensent quoi, eux, de nos pistes cyclables?
Le mieux, c'est de laisser Guillaume Spielmann, un des membres de l'association, nous répondre.
Ça commence à être pas mal à Annecy. Quand on compare à d'autres villes, on n'est quand même pas trop mal lotis. Il y en a qui existent depuis un certain temps, notamment la piste cyclable le long du lac, qui est assez ancienne. Après, en ville, chaque année, il y en a des nouveaux qui sont créés.
La piste cyclable d'Annecy fait 132 km. Est-ce beaucoup selon vous?
Alors ça dépend ce qui est compté dans les 132 km, parce que là-dedans il peut y avoir des bandes cyclables qui sont juste les bandes peintes sur le bord de la route, où on n'est pas vraiment séparé. Donc juste parler en kilomètres de pistes cyclables, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la qualité et est-ce que surtout tout le territoire est bien maillé pour que, quel que soit son trajet, on arrive à trouver une piste cyclable qui va nous permettre d'y aller de manière sécurisée. Et donc nous, ce qu'on espère à Roule & Co, c'est qu'évidemment, il y en ait de plus en plus et surtout que ce soit des aménagements de qualité qui permettent vraiment de se déplacer rapidement et de manière continue. C'est pas je fais 100 mètres de piste, après je suis jeté au milieu des voitures, puis à nouveau 100 mètres de piste. Sur son trajet, aujourd'hui, il est rare qu'on puisse tout faire en aménagement cyclable sécurisé. Donc ça peut faire hésiter des gens. Ils vont avoir l'essentiel de leur trajet qui sont des bons aménagements. Et puis d'un seul coup, il y a un bout qui les fait hésiter à prendre leur vélo parce que ça leur fait un petit peu peur.
Comment peut-on améliorer les aménagements pour les vélos de Annecy?
Mais du coup, il faut se poser la question de quels sont les grands axes à aménager pour vraiment, encore une fois, pouvoir aller d'un point A à un point B de la manière la plus sécurisée possible. Donc du coup, c'est aussi faire des aménagements qui, le plus possible, dès qu'il y a beaucoup de trafic, sont séparés des voitures et pas juste des bandes cyclables sur le bord de la route où on se fait souvent doubler d'un peu trop près. Donc voilà, la clé, ce serait vraiment sécuriser et aussi faire un vrai réseau et pas juste des bouts de cyclables à droite ou à gauche.
Quels sont les avantages des aménagements ?
Faire des aménagements cyclables, ça permet de sécuriser un peu les déplacements à vélo pour toutes les personnes qui auraient peur de rouler au milieu des voitures, qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, les enfants, les personnes âgées, etc. Le fait d'avoir des pistes cyclables bien protégées, bien séparées, bah, ça leur permet de ne pas avoir peur et de se lancer et de commencer à faire leur trajet à vélo. Mais en tous les cas, ça s'améliore d'année en année et on a bon espoir que d'ici quelques années, ça soit encore mieux.
Si vous voulez découvrir l'association Roule & Co, appelez le 07 69 02 07 81 ou contactez-les sur leur adresse email info@roule-co.org.
Du vélo, on passe au hockey avec vous, Louis, Loane. Bonjour.
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 Avec la patinoire qui sera en travaux l'année prochaine, comment vont faire les joueurs pour s'entraîner ?
Pour avoir la réponse, nous sommes allés rencontrer les joueurs du Hansé Hockey. David Rachex a répondu à nos questions.
Alors les entraînements pendant les travaux, ça va être assez compliqué. On n'a encore pas la solution. On pense qu'on va aller s'entraîner sur des patinoires extérieures. Mais le plus compliqué, c'est d'attaquer le championnat sans patinoire. Ça va être vraiment compliqué. Après les travaux, il va y avoir tous les vestiaires côté hockey artistique qui vont être redistribués. Il y aura une nouvelle tribune en face de la tribune principale. Sous cette tribune, on aura des vestiaires spécialement pour l'équipe première. Et il y aura même, derrière la tribune principale, un gymnase pour qu'on puisse faire du hors-glace. Voilà, ça va être super sympa.
Pourquoi les travaux, la patinoire, est-elle trop vieille ?
C'est pas qu'elle soit trop vieille. Après, c'est une demande du hockey et de l'artistique aussi. Vieille non, parce qu'on a la chance d'être à Annecy et que la municipalité entretient ses outils. Donc non, pas trop vieille, mais plus adaptée en fait.
Est-ce que le hockey est populaire à Annecy ?
Il est populaire, à mon goût pas assez, mais c'est en voie de s'améliorer, je pense, dans les prochaines années.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club ?
Ce qui me plaît dans ce club, c'est que bah déjà d'une, j'y suis depuis 40 ans et que j'ai vu grandir beaucoup d'enfants.
Comment a évolué ce club ?
Bah, il évolue petit à petit. On a fait beaucoup de saisons de D2 et 3 ou 4 ans en D1, donc il évolue. Et faut pas être pressé non plus pour qu'il évolue. Voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Quelles sont les qualités pour être un bon joueur ?
Bah, les qualités, être assidu aux entraînements, d'avoir une hygiène de vie irréprochable, d'être un passionné et après pas se blesser.
Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont débuté ici, qui sont allés très haut ?
Oui, il y en a eu même beaucoup. Je pourrais vous en citer quelques-uns. Alexandre Bayard, Thomas Bussat, Nicolas Régorez, Sylvain Giette, Rémi Martinet et Adèle Coudry, Timothée Quatron. Enfin, il y en a beaucoup et j'en oublie.
Et parmi tous ces joueurs, est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement célèbres ?
Alors oui, il y a Alexander Bayard qui a joué en équipe de France et Adèle Coudry, il a joué en Ligue Magnus avec les Brûleurs de Loup à Grenoble. Si on veut aller les voir jouer et les encourager, le prochain match du Hansé Hockey, ce sera ce samedi à 20h30. Les Chevaliers du Lac affronteront Valence à la patinoire Jean-Régis.
On change de terrain et de la glace, on passe au gymnase avec vous, Chiara et Yana. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes allés rencontrer deux passionnés de handball, Andric et Stéphanie.
Et on écoute tout de suite votre reportage.
Ouais, bien vu. Va l'aider, va l'aider. Rapproche-toi de lui, ouais.
Dommage. Eh ben bonjour, je m'appelle Andric et je fais du hand au club d'Annecy-le-Vieux.
Vous faites du handball depuis quand ?
Je fais du hand depuis mes 5 ans. Tous mes frères et sœurs font ce sport, donc c'est pour ça que j'ai fait du handball.
D'où vient cette passion plus précisément?
Et bah du coup, j'ai voulu suivre mon grand frère.
Ce sport vous prend-il tout votre temps libre?
Il y a 7 entraînements dans la semaine et les matchs le week-end qui sont parfois loin avec 10 heures de bus. Donc oui, ça prend tout le temps libre.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce sport?
C'est le côté collectif et la vie en communauté. On va attendre
les noirs, là. Bonjour, Stéphanie Garin, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis présidente du club Annecy Handball.
Expliquez-nous votre rôle dans le club.
Alors, le rôle de présidente, ça dépend de chaque club. Moi, je suis en charge de tout ce qui est relationnel avec les salariés, les instances fédérales du club, c'est-à-dire la Ligue, le comité et la fédération. Je suis en lien avec les partenaires comme la mairie ou les partenaires privés et j'organise toutes les commissions du conseil d'administration, les réservations de matchs, la planification et les licences.
Est-ce que vous transmettez votre passion à vos proches?
Alors oui, effectivement, quand j'ai rencontré mon mari, il ne faisait pas du tout de hand. Maintenant, c'est un fidèle supporter. Mes 2 enfants qui ont 6 et 12 ans donc jouent tous les deux au hand et nos amis très proches font partie de la famille du hand.
Le hand vous prend-il beaucoup de temps libre?
Alors j'ai envie de te dire que c'est un deuxième métier. Ça me prend beaucoup de temps en semaine, en soirée et ça me prend quasiment tous les week-ends.
Pourquoi avoir choisi ce domaine?
Alors moi je venais de sport individuel. J'ai découvert le sport collectif avec beaucoup de valeurs super intéressantes. Le partage, la convivialité, le respect et gagner ou perdre en équipe, c'est vraiment une histoire de la vie.
Si le handball vous intéresse, rendez-vous sur le site du annecyhandball.fr.
Bientôt les fêtes de fin d'année et le marché de Noël bat son plein à Annecy avec son lot de touristes qui en profitent pour découvrir la ville. Nessa, Léna, Rayane, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes demandé qui sont les touristes qui viennent à Annecy et pourquoi ils viennent visiter notre ville.
Il faut savoir qu'à l'année, la ville accueille 3 millions de touristes.
C'est ce que nous explique l'Office de tourisme.
L'hiver, les touristes aiment bien visiter la vieille ville essentiellement, profiter du marché de Noël comme en ce moment. Nos musées, Palais de Lille, Musée Château, Musée du film d'animation et monter en station pour tout ce qui est sport, tel que raquettes, ski de fond et ski alpin également.
Y a-t-il plus de touristes l'hiver ou l'été?
Majoritairement beaucoup l'été, avec une pointe au mois d'août avec la fête du lac qui a lieu le premier samedi du mois d'août. Donc notre grand spectacle pyrotechnique qui attire plus de 100 000 personnes à chaque fois.
De quel pays sont les touristes les plus nombreux?
Généralement majorité, vous avez Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne également. Et au niveau de la France, l'Île-de-France arrive en tête. Île-de-France, après Bretagne, nord de la France également.
Pourquoi Annecy est l'une des meilleures villes de France?
C'est une ville qui est très riche en termes de patrimoine, donc on a de très beaux musées. Annecy, c'est la Venise des Alpes, donc... On est connu pour les canaux, la gastronomie, puis la douceur de vivre, et puis bien sûr son lac et ses montagnes.
Si vous voulez visiter le marché de Noël, c'est jusqu'au 1er janvier 2023.
Plus qu'une dizaine de jours avant Noël, les cadeaux à préparer, mais aussi des idées de menus à trouver. Rawen, Émilie, bonjour.
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 Je sens que vous allez nous mettre l'eau à la bouche, puisqu'on va parler pâtisserie avec vous.
Oui, on allait rencontrer un des meilleurs pâtissiers d'Annecy, Philippe Rigolo. Il est meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie et il a prévu plein de bonnes choses pour les fêtes.
Pour Noël, j'ai toujours plein de nouveautés. Je sors toujours des bûches nouvelles par rapport à l'année d'avant. Là, j'ai 5 bûches pâtissières qui sont tout à fait nouvelles et 3 bûches glacées. Alors, ça tourne dans les parfums. La bûche pâtissière, c'est une bûche tout chocolat, un peu royale avec un bon croustillant à la base. On a une bûche marron poire, on a une autre bûche noisette clémentine, une bûche pomme tatin vanille, caramel, et la dernière c'est chocolat lait passion, fruit de la faux exotique.
Depuis quand vous avez commencé la pâtisserie à faire des gâteaux en fait en tant qu'enfant?
J'ai commencé à apprendre le métier à 14 ans et demi, en région parisienne. Bon, ma mère était vendeuse en boulanger-pâtisserie, alors j'allais souvent la rejoindre au magasin. Et après, j'allais travailler avec le patron et c'est comme ça que ça m'a donné envie de faire des gâteaux.
Depuis quand vous avez votre propre pâtisserie qui a votre nom?
Depuis 12 ans, Ça fait 12 ans qu'on est installé à Annecy avec notre pâtisserie qui porte mon nom. Ouais.
Et est-ce que vous avez comme des sortes de secrets pour avoir réussi tout ça, vos titres et votre pâtisserie qui est assez réputée ici à Annecy ?
Je pense que c'est du travail, c'est des rencontres de personnes au bon moment qui m'ont fait confiance pour les concours. Et voilà, je pense qu'il y a un gros travail personnel aussi à faire pour les concours et pour s'installer.
Et vous pouvez retrouver les secrets et recettes de Philippe Rigolo dans son livre « Pâtisserie de saison » aux éditions Glénat pour réaliser les douceurs qu'on trouve dans sa pâtisserie.
Quel temps il va faire aujourd'hui, Awa ?
À matinée à Annecy, le temps sera bien froid et il va neiger. La limite pluie et neige sera à 300 mètres et il fera 0 degré. Après-midi, il pleuvra. Il fera 3 degrés. Le vent sera faible.